Votre père aveugle?
Oui, toujours.
Est-ce que vous vous rappelez les premières impressions de quand vous étiez tout enfant et que vous avez pu ressentir en découvrant que votre père ne voyait pas?
Je crois que ça a été si sérieux, si grave pour moi, que je ne peux pas me rappeler les premières impressions. Elles sont si multiples et si ancrées en moi, elles ont pris une valeur si profonde que...
Est-ce que vous avez établi un rapport qui s'impose à moi maintenant, mais je le sais car je ne savais pas cela, entre le fait que votre père était aveugle et que le premier ouvrage que j'ai connu de vous s'appelait L'histoire de l'œil?
Cet ouvrage est un ouvrage anonyme.
Oui, mais enfin, je crois me rappeler que c'est par vous que je l'ai connu.
C'est cela. Je ne crois pas que ce soit...
Ça, c'est une coïncidence assez troublante.
Faut-il mettre cela en rapport, peut-être n'est-ce qu'une association verbale, entre avec les heures que vous disiez passer dans la pénombre? Vous avez employé ce mot deux fois.
Et oui, en effet, il arrivait que mon père reste dans la pénombre, puisque allumer une lumière n'avait pas de sens pour lui. Si personne d'autre n'était là que moi, personne n'allumait de lampe. Et je restais là, je me rappelle, dans un état de prostration et de dégoût même, très profond.
Et est-ce que, n'est-il pas vrai de dire alors que vous avez renoncé très vite à combattre l'ennui?
Je ne voyais qu'un moyen de combattre l'ennui qui était de jouer.
Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre formation plus récente une sorte d'adhésion, de soit, d'acceptation à cette espèce d'ennui, à cette espèce de rien persistant sur vous, à cette espèce de voile de néant?
En somme, ce que vous dites a un sens très net pour moi.
C'est tellement évident, et je trouve la remarque de Clavel extrêmement subtile. Il est évident que l'état où était votre père nous paraît très important, parce que vous deviez, c'est une hypothèse que je fais, vous deviez, étant petit enfant, avoir l'impression que votre père ne pouvait pas se proposer, lui, un but défini dans la vie. Car un aveugle, c'est quelqu'un qui est séparé du monde extérieur, qui est obligé de marcher à tâtons. Et il est possible que, inconsciemment, vous ayez déjà eu en vous un certain sentiment d'inanité, de diriger et de centraliser ses efforts vers un but défini, parce que le père, lui, n'était pas capable de le faire.
Ceci est peut-être d'autant plus vrai que vous avez dit une chose qui m'a frappé. Vous parliez de mon père comme marchant à tâtons. Mon père ne marchait pas à tâtons pour la bonne raison qu'il était aussi paralytique. Et évidemment, ceci charge les choses dans le sens que vous dites, encore que lui faisait beaucoup de projets. Il croyait toujours guérir et...
Oui, mais vous sentiez l'humanité de ces projets.
C'était assez sensible.
Ouais. C'est peut-être cela qui vous a résolu à tuer et l'espoir et le but. Enfin, qui vous a résolu, qui vous a infléchi, incliné.
Pour me rendre aussi paralytique et aussi aveugle que mon père.
Non, parce que vous avez vu par là même la formidable stérilité de l'espoir.
Peut-être pour vous rendre aussi existant que votre père, que justement la vraie vie n'est ni dans l'espoir, ni dans le but, ni dans les yeux, ni dans les mouvements, mais qu'elle est dans un ailleurs que vous cherchez, peut-être en rompant les habitudes et par le désordre des sensations.
Peut-être parce qu'on retrouve quelque chose d'irréductible sur quoi ni l'immobilité, ni la nuit n'ont de prise.
Et c'est ça le rien.
Et d'irréversible.
Rien, je proteste toujours parce
mais
que...
Bien sûr, moi aussi.
Il faudrait que je connaisse ce que c'est pour dire que ce n'est rien.
Il me semble que maintenant, il n'y a plus à conclure, les conclusions ayant comme jailli d'elles-mêmes à la fin de notre entretien.